Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon mercredi, Marianne Paquette qui est derrière ce micro pour les 30 prochaines minutes. L'émission C'est bon pour la santé qui débute sur Canal M. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle d'un phénomène en croissance, ça en deuxième partie d'émission, le vélo d'hiver. Une journée plutôt idéale pour en parler. On est sous la tempête un petit peu partout au Québec. Donc, de plus en plus d'adeptes, notamment bien sûr là, en ville à Montréal. Bon, des cyclistes que certains pourraient qualifier de téméraires, là, pour ne pas dire kamikazes, ou du moins courageux, c'est la moindre des choses. Mais force est d'admettre que été comme hiver, le vélo, ça reste une façon de se déplacer qui est efficace, peu coûteuse, écologique. Donc, je trouvais ça important d'en parler, notamment que c'est toujours dans l'optique aussi de meilleures habitudes de vie et d'un mode de vie actif. Il y a Magali Brebonne, porte-parole du Vélo d'hiver chez Vélo Québec, qui sera avec nous en studio tout à l'heure pour démystifier un petit peu la pratique de la bicyclette en hiver. Aussi, on a tous à peu près soit déjà vu, observé ou du moins entendu parler de l'utilité du soutien des chiens guides pour des personnes qui vivent avec une déficience visuelle. Toutefois, depuis quelques années, et ça, on le sait un petit peu moins, et pourtant, la demande est réelle, il y en a de plus en plus, des chiens que l'on pourrait davantage qualifier de chiens d'assistance, toujours entraînés par la Fondation Mira, qui accompagne, eux, des enfants qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme. Et il y a eu des études à l'appui, toutes sortes d'études qui démontrent les bienfaits réels pour les enfants qui vivent avec un TSA, mais aussi pour leur famille. J'en parle à l'instant avec Noël Champagne, lui, psychologue et directeur de la recherche et du développement chez Mira. Noël Champagne, bonjour.
Bonjour, madame.
Monsieur Champagne, bon, à peu près depuis quelques années, vous saurez me dire depuis combien de temps, la Fondation Mira attribue plus de 100 chiens par année à des familles, à des enfants qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme. Est-ce que c'est parce qu'il y a moins de besoins du côté des personnes qui vivent avec un handicap visuel ou c'est une façon de s'adapter aux besoins de la population?
On peut être un peu les deux. Vous direz que le fait de vivre avec une cécité ou le fait d'être aveugle, c'est un phénomène de plus en plus rare chez l'humain, là. Compte tenu de l'avancement de la médecine, compte tenu des meilleures connaissances qu'on a sur les apports génétiques là, dans le développement, fait de telle sorte que rencontrer une personne handicapée de la vue, là, c'est rendu quasiment un phénomène assez rare. Et pure coïncidence, nous autres, dans les demandes, moi, j'avais beaucoup de demandes sur mon bureau dans les années 2000 et progressivement, j'ai commencé à décortiquer toutes ces demandes-là et je me suis retrouvé avec une population d'enfants là, qui présentaient, à cette époque, on parlait du trouble envahissant du développement. Oui. Et c'est, je suis resté moi-même très surpris en commençant à faire les recherches et de voir que c'est une prévalence excessivement importante là, dans les grandes régions urbaines, principalement Montréal, Montérégie, Laurentides, Lanaudière. On en est à des taux de prévalence là. Comme à Montérégie, au moment où on se parle, on peut parler à toutes les 70 naissances, c'est un enfant qui va présenter un trouble s'apparentant à un trouble envahissant du développement ou un trouble autistique. Là.
Mm-hmm. Oui, c'est beaucoup. Vous avez parlé, Noël Champagne, de ces études faites au début des années 2000, notamment 2006 à 2009, où vous avez suivi 120 familles. Ça a donné quel genre de résultats, ces études-là?
Les premières études qu'on a entamées, ça a démarré en 2003, où on s'est intéressé au phénomène de l'anxiété chez l'enfant et de toute sa famille. Et on est allé chercher de la salive dans la bouche des enfants et des mères principalement pour y extraire du cortisol, qui est l'hormone de l'anxiété et du stress chez l'humain. Et pour dans cette première étude qu'on a faite en 2003 et 2006, on a observé que quand les familles se retrouvaient, les enfants âgés entre 5 et 10 ans et qui présentent un trouble autistique, que les enfants qui étaient en présence des chiens présentaient des taux de cortisol moins élevés, donc moins de stress, moins d'anxiété et des impacts importants sur leurs conditions de santé. Et par la suite, en 2006, on a mis sur pied une étude dont on publie encore des résultats parce que c'était une étude d'importance incroyable. On a suivi 60 familles sur la variable du cortisol pendant 18 semaines comparé à des familles qu'on a suivies sans chien là, sur le cortisol. Et on a des différences significatives entre des familles dont les enfants vont présenter un trouble autistique avec le chien et sans chien.
Donc, si j'entends bien, autant des bienfaits pour l'enfant que pour sa famille.
Des bienfaits importants, là, des affaires auxquels on n'aurait jamais estimé. Il y a même on a des résultats inattendus là, sur le phénomène d'un phénomène de régulation entre la mère et l'enfant, comme le cortisol qui varie, la mère le cortisol augmente, l'enfant augmente, la mère descend, l'enfant descend, ça se suit. Des fois, je disais comme une valse, si on veut. Là. Si on regarde ça, on est capable de visualiser ça sur deux lignes sur un oscilloscope et ça se suit, ces deux lignes-là. Et quand on introduit un animal, ça casse cette relation-là.
Oui. Des enfants, donc, qui ne parlaient pas, dans certains cas, et qui se sont mis à communiquer, à parler.
Ça s'est amélioré de beaucoup des affaires, principalement des choses auxquelles on ne s'attendait pas, comme le sommeil chez les enfants qui présentent des troubles importants du sommeil, la présence de l'animal fait en sorte qu'on va régler des problèmes de sommeil chez l'enfant et toute la famille. Et, l'air anodin, là, mais une famille qui dort, c'est une famille heureuse.
Ouais.
Quand des routines de nuit, c'est vraiment des dérangeants, les enfants qui se lèvent la nuit, soit qui vont coucher avec les parents, ils font toutes sortes d'affaires la nuit qui peuvent compromettre leur sécurité aussi, là. Fait que ça, le sommeil de la famille, ça a déjà la présence d'animal, vient régler ça. Vient faciliter aussi de beaucoup des transitions, des affaires aussi simples que de s'habiller pour aller à l'école le matin. Ça devient comme facilitant. Et, les comportements de crise aussi qui sont réduits. Façon de m'exprimer, les familles vont dire plus de niaiseries, il y a plus d'humour, là. Il y a une amélioration dans le climat familial de façon importante. Là. Dans l'ensemble, là, on rencontre les critères d'attirance de l'enfant à l'égard de l'animal, on se retrouve avec des résultats moi, je considère assez impressionnant.
Oui. Bon, on le sait, et vous êtes au courant, Noël Champagne, le chien souvent attire les gens. On est porté à aller flatter le chien, à vouloir jouer avec lui. Et ça facilite les contacts aussi avec l'extérieur pour l'enfant autiste.
Oui, oui. Mais aussi, ça force le... Effectivement, il y a plus de... Les gens, ils se font poser plus de questions, ils sortent plus, mais le fait d'être en présence de l'animal est capable d'affronter des grandes surfaces, aller dans les centres commerciaux, aller au restaurant, aller dans des endroits publics. C'est comme le chien, il vient gérer une stabilité chez l'enfant dans son mouvement, dans son déplacement, et nécessairement est capable d'affronter des gens, de discuter avec les gens qui vont lui demander, vont dire, t'es pas aveugle, pourquoi t'as un chien?
Ouais.
Et puis les enfants, effectivement, vont développer plus de socialisation avec, avec l'animal.
Ça, c'est intéressant parce que, je le disais en introduction, là, on est plusieurs à connaître la présence du chien guide pour la personne qui présente une déficience visuelle, mais le chien d'assistance pour un enfant autiste, beaucoup moins. Le grand public est-il assez sensibilisé? Pourtant, je pense que votre programme existe depuis 2003, mais pourtant, c'est plus méconnu.
En fait, moi, j'en revenais pas l'an dernier, là, la campagne de jouer l'autisme. J'ai vu ça, moi, à Montréal, partout, des endroits pour, dans le métro, des indications pour l'utilisation du chien pour les familles d'enfants autistes. Il y a des causes importantes. Il y a un jugement qui a été rendu, je pense, peut-être à l'automne, mois de septembre, sur le fait, le droit du parent de pouvoir se déplacer seul avec le chien, même quand son enfant n'est pas là, dans des endroits publics, comme aller au restaurant, parce que son enfant va être à la garderie, on ne peut pas demander au milieu de garderie ou de l'école de s'occuper du chien, lorsqu'ils ne connaissent pas ça, mais il y a un droit qui appartient aux parents. Fait que, on en a parlé beaucoup, mais c'est un domaine comme d'autres, c'est pas tout le monde qui s'intéresse à l'utilisation des chiens pour aider des personnes handicapées. Il faut avoir tout de même un intérêt, là.
Oui. Justement, quelle est l'implication pour le parent lorsque le chien migrant, le chien d'assistance, arrive dans la famille? Je parle du tout début du processus.
Bien, d'une part, c'est une longue démarche, là. Il faut que les parents complètent une demande, complètent un formulaire, nous fassent parvenir des rapports diagnostiques pour qu'on... Puis par la suite, on va inviter la famille dans nos locaux, dans le cadre du programme qu'on appelle le programme de la Scuola Mira, où on va évaluer l'attirance de l'enfant à l'égard du chien. On invite les familles dans un cubicule et on les laisse dans le cubicule une quinzaine de minutes, le temps de s'acclimater. Et par la suite, on va leur présenter un chien entraîné, gentil, puis on va leur donner quelques consignes et on va... Et au fur et à mesure, on va décoder les comportements de l'enfant à l'égard de l'animal. Où il va, par exemple, se positionner, où il va se placer, est-ce qu'il va parler au chien, est-ce qu'il va sourire, est-ce que les parents vont le supporter. Puis on va être en mesure de décréter l'admissibilité par ce qu'on appelle un facteur d'attirance de l'enfant à l'égard du chien. Si un enfant vient dans le local puis il passe son temps à jouer à un autre jeu que d'interagir avec le chien, on va s'interroger avec le... On va s'asseoir avec le parent, puis on va discuter de peut-être pas nécessaire de s'embarquer dans une situation comme ça, là. Parce qu'un chien, ça fait du poil, puis ça fait des besoins aussi à l'extérieur, puis il faut ramasser ça, puis ça n'a pas juste des avantages, là.
Oui, et puis comme vous le disiez tout à l'heure, le parent doit être très impliqué dans ce processus, à savoir que parfois, c'est lui qui devra l'amener au bureau si le chien ne peut pas être présent à l'école ou en milieu garde.
Exact. Ils doivent, une fois qu'ils ont complété l'admissibilité, après ça, il faut qu'ils viennent à des rencontres d'information avec le personnel chez nous pour vraiment que leur consentement soit le plus informé possible. Il faut qu'ils se soumettent à une résidence de 24 heures par jour pendant 7 jours, 8 familles en même temps, pour apprendre les rudiments, apprendre à interagir avec l'animal et des entraîneurs. Par la suite, des suivis, soit dans le milieu familial ou dans les milieux de travail, là, dépendamment de la situation des parents, où on a maintenant nos programmes, où c'est les jeunes adolescents qui vont à l'école, qui présentent un trouble de l'autisme et qui vont aller à l'école ou qui vont à l'école avec leur chien.
Noël Champagne, est-ce que le chien est entraîné de la même façon que pour un chien?
Les bases, c'est moins compliqué, là, mais c'est l'animal qui vient du troupeau de Mira.
Ouais.
C'est un animal qu'on a hautement sélectionné avec ce qu'on appelle des caractéristiques d'un chien guide, là. Un faible niveau d'activité, pas trop gourmand, pas de peur, un chien vraiment, il prend un humain dans le nez pour être confortable.
Ouais.
Plutôt que de toujours avoir le goût d'aller dans le bois puis de faire lui une perte de riz, là. C'est un peu différent. Fait que c'est le même animal. les mêmes critères pour sélectionner les animaux pour la mission de MIRA, soit chien guide, chien d'assistance personne handicapée physique ou chien pour les familles d'enfants autistes. L'entraînement le plus compliqué, c'est l'entraînement du chien guide. Après ça, c'est pour les personnes en fauteuil roulant. Et par la suite, c'est de 3 à 4 mois d'entraînement pour le chien pour les familles dont les enfants vont présenter un TSA.
À partir de quel âge c'est pertinent ou adéquat pour un enfant autiste d'avoir un chien d'assistance?
Il n'y a pas d'âge, là, mais plus c'est comme un principe en psychologie où plus on intervient jeune dans le développement de l'enfant, plus qu'on a de chance de solutionner des éléments liés ou d'améliorer le développement de l'enfant. Fait que si on a un enfant, là, à l'heure actuelle, on a des enfants âgés de 3 ans, on a une très forte demande là, pour des enfants âgés de moins de 5 ans. La majeure partie de la demande, elle vient de familles dont les enfants sont âgés de 10 ans et moins.
OK.
Fait que dans le cadre de nos recherches, toutes nos familles étaient âgées. L'âge moyen à l'heure actuelle, ça tourne aux alentours de 7-8 ans. Là.
Et justement, lié à cette demande-là, est-ce que MIRA arrive à y répondre?
Oui, ça fait beaucoup, là. On attribue à un moment donné où, dans le cadre de nos recherches, mettons, en partant de 2003, on travaillait, mettons, au cours de 2003 à 2013, on a travaillé en moyenne en attribuant 50 chiens par année dans des contextes de recherche. Et depuis 2010, on attribue dans le cadre d'un programme là, qu'on appelle le programme de la Scuola MIRA. Et on a commencé à 50, 60 chiens, 2000. Puis là, en 2013, on attribue 100 chiens plus depuis 2013. Cette année, on a attribué 117 chiens. Et on pense que la demande est en train de se stabiliser aux alentours de 200 demandes par année. Et compte tenu des exigences liées à s'embarquer dans une telle démarche pour que ça ait des effets sur le développement de l'enfant et l'amélioration de toute la famille, les parents, c'est un bon investissement. Fait qu'on pense qu'on va pouvoir satisfaire la demande pour les années à venir en attribuant près de 130 chiens.
Et en terminant, on devrait agir comment avec un chien d'assistance? Avec les chiens guides, on le sait, les laisser travailler.
C'est la même chose. Oui? Okay. C'est toujours la même chose. C'est pire un chien guide parce que, pensez juste au chien guide, ce qui est pire, c'est parce que la personne, elle ne vous voit pas.
Oui.
Tandis que l'autre, les personnes vous voient et souvent, on prend le temps de saluer les gens, peu importe les chiens, là. On fait pas ça, se garrocher sur un chien puis flatter le chien, puis on s'adresse à la personne, on lui dit bonjour, vous avez un beau chien, puis est-ce que c'est un chien de la Fondation MIRA, on entreprend une conversation, puis si éventuellement les personnes, mais en règle générale, on ne touche pas au chien, on laisse travailler le chien pour pas le déranger dans son travail.
Ils se reconnaissent aussi bien, c'est-à-dire souvent lorsque l'on voit un chien guide, on le reconnaît, est-ce que c'est la même chose pour
sauf chien guide, c'est vraiment des éléments liés à l'entraînement. Il y a une poignée sur le dos du harnais du chien qui sert comme un peu un joystick pour indiquer le chemin de direction à la personne handicapée de la vue.
Okay.
C'est un peu technique. Par exemple, comme pour une personne qui fait de la sclérose en plaques, il y a des capacités de marche, tu as un autre type de support sur le dos du chien. Et pour le chien, pour les enfants qui présentent un trouble du spectre de l'autisme, c'est un harnais où le logo de MIRA est bien, est bien là, mais les chiens sont identifiés avec un harnais de MIRA. Là. Et c'est comme ne pas s'occuper des chiens. Si des gens ne sont pas capables de se retenir, de flatter les chiens, on pourrait leur organiser un forfait d'une fin de semaine dans un enclos de la Fondation MIRA, toutes dépenses payées avec 4 chiens.
Ah ben, on vous les réfère, hein, Noël Champagne. Vous êtes psychologue et directeur de la recherche et du développement chez MIRA. C'est un plaisir de vous parler, toujours un plaisir de parler aux gens de la Fondation MIRA. Vous les saluerez d'ailleurs.
Bien, vous êtes bien gentil.
Au revoir.
Merci beaucoup, au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Magali Brebonne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole du Vélo d'hiver chez Vélo Québec, journée idéale pour en parler sous cette tempête. Et je dois le dire, Magali, vous êtes venue ici, chez Buzevoix, en vélo. Une très bonne porte-parole. Bon, je le dis en introduction, le vélo, c'est toujours un moyen de se déplacer qui est efficace, qui est peu coûteux, qui est écolo. Mais est-ce que l'hiver, c'est aussi simple? Je pense aux habits, les habits que l'on veut chauds, les multicouches, les pneus, est-ce que ça reste quand même agréable ou ça devient un peu lourd comme activité?
C'est aussi simple pratiquement, puis ça a même des avantages supplémentaires parce que déneiger une auto en hiver, moi, quand je passe dans la rue sur mon vélo puis que je vois des gens qui sont là en train de pelleter, puis depuis une demi-heure, je me dis que ma vie est bien simple par rapport à la leur. Et puis, quand je vois l'entassement dans les transports en commun, je me dis que je suis bien contente de ne pas être contrainte de devoir faire partie de la classe sardine, là, comme on l'appelle ces jours-ci. Et puis, même pour l'habillement, je vous dirais que c'est simple parce que quand on fait du vélo d'hiver, on s'habille bien une fois en sortant de chez soi, puis on se déshabille en rentrant à notre destination, alors que quand on prend les transports en commun, on s'habille une fois, on rentre dans le bus, on ressort, il fait chaud, on arrive dans le métro, il fait chaud, là on enlève des couches, puis on les remet parce qu'on a une petite marche à prendre, etc. Fait que la simplicité, je pense qu'elle reste quand même pas mal du côté du vélo, même en hiver.
De plus en plus d'adeptes, j'imagine, notamment à Montréal, est-ce que Vélo Québec est capable d'évaluer à combien de cyclistes là, pendant la période hivernale?
C'est très difficile, mais on espère avoir des données un peu plus tangibles avec l'étude qu'on fait aux 5 ans qui s'appelle l'état du vélo. On est en train de travailler sur les données de 2015, donc on aura ces réponses-là courant de l'année. Alors, c'est assez difficile à quantifier, cette tendance-là. À l'œil nu, on voit bien qu'il y a de plus en plus cyclistes dans les rues. Puis, ce sur quoi on peut se fier, en quelque sorte, ce sont les compteurs automatiques qui sont installés sur les pistes principales de la ville de Montréal, notamment. Et ce que nous disent ces compteurs-là, en tout cas pour les années précédentes, c'est qu'en hiver, on maintient entre 10 et 15 de l'achalandage sur ces pistes-là. Alors, ce n'est pas négligeable de dire qu'un cycliste sur 10, dans les conditions actuelles, continue à faire du vélo. C'est quand même très intéressant. Ça nous donne une idée de l'ampleur du phénomène. Et on sait aussi que le potentiel est beaucoup plus grand.
Oui. Est-ce que les pistes cyclables sont déneigées en période hivernale?
Écoutez, une partie. Et puis, c'est là où on voit aussi qu'on a fait beaucoup de chemin. En 2008, on nous annonçait un réseau blanc de 63 km. Puis, en réalité, même rendu en 2012-2013, ça frôlait plutôt les 45 km. Aujourd'hui, en 2016, la volonté affichée de la ville de Montréal, c'est de rendre 395 km de voies cyclables accessibles à l'année. Bon, la réalité est un petit peu plus nuancée parce que là-dedans, il y en a qui sont plus ou moins entretenues, plus ou moins praticables. Mais je pense que ce qu'on a gagné très clairement au niveau de la ville de Montréal, c'est qu'on n'a plus besoin de justifier pourquoi c'est important de déneiger des pistes cyclables. Maintenant, c'est OK, comment on fait pour que ça arrive?
Oui.
Alors ça, c'est très positif.
Est-ce que les notions de sécurité sont les mêmes?
Écoutez, je pense que les notions de sécurité, elles sont les mêmes pour les piétons, les cyclistes et les automobilistes. En hiver, on sait que notre adhérence est moins bonne, on sait que la visibilité est moins bonne, que les rues sont plus étroites. Alors, les conseils qu'on peut donner aux automobilistes de ralentir, de se garder une distance de sécurité plus grande avec les véhicules qui les précèdent, d'anticiper, ce sont exactement les mêmes conseils qu'on peut donner aux cyclistes. Et puis, je vous dirais qu'à vélo, on est très, très conscient des conditions. On est très, très conscient de son adhérence. On est très, très conscient de
la fragilité aussi, hein, contrairement à un automobiliste.
Oui, quelque part, on sait très bien à quoi s'attendre. On le ressent sur notre visage, on le ressent sous nos roues. Alors, on s'adapte presque naturellement à ces conditions-là.
Quels seraient, Magali, vos meilleurs conseils pour faire du vélo d'hiver? Je parle ici que ce soit des habits à porter, des pneus ou bon, d'autres trucs et astuces.
Je dirais, c'est de respecter ses propres limites et son niveau de confort. Faire du vélo l'hiver, on s'entend que ça peut consister à rouler sur des chaussées parfaitement sèches ou légèrement mouillées. Parce que finalement, dans un hiver, il y a peu de journées qui sont vraiment compliquées avec une accumulation notable au sol.
C'est pas toujours comme aujourd'hui, là.
C'est ça. ou des chaussées glacées. Ça, c'est une minorité des journées dans l'hiver. Alors, peut-être commencer simplement à ne pas ranger son vélo à la date de fermeture des pistes cyclables le 15 novembre, de le garder, puis de se laisser la possibilité de le prendre. Après, on va s'adapter en fonction de justement du nombre de jours où on va vouloir continuer malgré tout. Et si on veut pouvoir rouler dans à peu près toutes les conditions, c'est sûr qu'adapter sa monture et notamment chausser des pneus qui sont plus adéquats, qui sont conçus pour l'hiver, ça peut être une bonne idée. On a depuis plusieurs années des pneus à clous notamment qui sont un peu dispendieux, mais encore là, ça coûte quoi le prix d'un abonnement mensuel de métro et de transport en commun. Ouais. Alors, ça peut valoir la peine, si on souhaite continuer vraiment la plupart des jours, d'investir dans ce type de pneus.
Et vous êtes arrivé ici avec des lunettes qui me semblaient être des lunettes de ski.
C'est ça, c'est que probablement au niveau des vêtements, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut dans votre garde-robe si vous faites des activités de plein air, si vous faites du ski de fond. Les notions. Bon, si vous faites juste quelques kilomètres, vous vous habillez comme vous habilleriez pour marcher à peu près. C'est juste de la marche, mais un petit peu plus rapide. Si vous faites davantage de distance, là, si vous commencez à dépasser les 5-10 kilomètres, c'est sûr que vous allez rapidement avoir chaud. Alors, on applique un peu les mêmes règles que pour le ski de fond. On y va en couche d'oignon pour pouvoir adapter à la chaleur du corps. Et la différence qui est peut-être un peu notable, c'est que ce sont les extrémités qu'il va falloir protéger davantage. Donc, avoir des bonnes mitaines, puis avoir des bons bas et des bonnes bottes.
Donc, pas vraiment de désavantages au vélo d'hiver, je vous entends, Magali?
Écoutez, je vous dirais, c'est moi, la plupart des gens que je connais qui font du vélo d'hiver vous diront à quel point ça leur a permis de changer leur relation à l'hiver et de ne plus le subir, de sentir qu'ils vont quand même pouvoir continuer à se rendre où ils le souhaitent. Et au lieu d'être en train de lutter contre les éléments, ils en tirent le meilleur parti. Alors, ça reste, pour moi, vraiment la meilleure antidote à la dépression hivernale.
Oui, et beaucoup de cyclistes qui pratiquent le vélo l'hiver diront « je n'ai pas froid, j'ai beaucoup moins froid que d'attendre l'autobus sur le coin de la rue parce qu'après 2 minutes, là, le corps se réchauffe ».
C'est certain. C'est en fait l'erreur du débutant, c'est d'avoir trop chaud, c'est de se couvrir trop. En fait, quand on s'apprête à faire une certaine distance à vélo, on devrait avoir légèrement froid au moment où on sort parce qu'au bout de quelques minutes, effectivement, on va produire sa propre chaleur et on va être très à l'aise.
Tellement d'adeptes, Magali, qu'il pourrait y avoir ou il y aura un congrès de vélo d'hiver à Montréal bientôt, dans quelques années.
C'est ça. C'est que la tendance qu'on voit à la croissance de la pratique du vélo 4 saisons, elle n'est pas propre au Québec ou même au Canada. C'est une tendance qu'on voit partout dans les pays nordiques. Et ça fait 4 ans déjà qu'il existe un congrès sur le vélo d'hiver auquel on a participé dès la première édition, qui s'est tenu d'abord en Finlande, à Oulu, puis ensuite à Winnipeg, puis ensuite je ne vais pas prononcer le nom parce que je suis Groningen aux Pays-Bas.
Bon
et cette année, c'était à Minneapolis-Saint-Paul. Et on a déposé notre candidature pour pouvoir accueillir la prochaine édition qui va se tenir en février 2017.
Ah, OK. Alors, ça se tiendra bien.
Oui, ça a été confirmé, en fait, à Minneapolis cette année. Donc, on est très, très fiers, très, très contents. Ce qu'on va faire à ce congrès sur le vélo d'hiver, c'est qu'on va réunir tous les élus, les fonctionnaires, tous les gens qui vont rendre la pratique du vélo d'hiver plus facile pour tout le monde.
On pourra vous réinviter à ce moment-là. Février 2017, Magali Brebonne, porte-parole du vélo d'hiver chez Vélo Québec. Merci beaucoup. Bonne route pour le retour.
Merci.
Merci Jean-Sébastien, la liberté, la mise en onde. C'est Marianne Paquette au micro. Rendez-vous demain, 14h. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.